Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Abidjan, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. En République démocratique du Congo, l'opposant congolais Félix Tshisekedi, proclamé provisoirement vainqueur de la présidentielle du 30 décembre, a rendu hommage au président sortant Joseph Kabila, partenaire de l'alternance démocratique, dans sa première prise de parole.
Je sais que pour beaucoup d'entre nous, c'est difficile à accepter, mais je le dis avec sincérité, je rends hommage au président Joseph Kabila, président de la République. Aujourd'hui, nous ne devons plus le considérer comme un adversaire, mais plutôt comme un partenaire de l'alternance démocratique dans notre pays. Aujourd'hui, je suis heureux. Heureux d'abord pour vous, base. Et à travers vous, je suis heureux pour le peuple congolais. Parce que ce processus électoral, tout le monde, il n'y avait personne en tout cas qui pouvait penser que il allait se dérouler dans le calme, dans la paix. Tout le monde pensait qu'on allait arriver à l'affrontement, aux violences, à l'effusion de sang. Personne ne pouvait imaginer un tel scénario et surtout un scénario au cours duquel un candidat de l'opposition allait sortir victorieux.
Les propos de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont été recueillis par nos confrères de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Toujours en RDC, des partisans de l'opposant Martin Fayulu, arrivé deuxième à la présidentielle, ont manifesté ce jeudi à Kisangani dans le Nord-Est pour protester contre les résultats proclamés par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Selon l'AFP, la police a tiré des gaz lacrymogènes et procédé à des tirs de sommation pour disperser des attroupements dans 3 des 5 communes de Kisangani. Martin Fayulu, arrivé en deuxième position, dénonce un putsch électoral. La France a aussi mis en doute les résultats proclamés par la CENI, estimant qu'ils ne sont pas conformes aux résultats réels et que l'opposant Martin Fayulu était a priori le vainqueur. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté toutes les parties prenantes en RDC à s'abstenir d'actes violents après la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle. République centrafricaine, le chef d'état-major des forces armées centrafricaines a suivi une formation en Russie. C'est ce qu'a affirmé ce jeudi la ministre centrafricaine de la Défense, Marie-Noël Koyara. Interviewée par l'agence russe RIA Novosti, Madame Koyara a également évoqué le déploiement dans des zones non contrôlées par le gouvernement de 1300 militaires centrafricains formés par des instructeurs civils russes. Depuis que ces soldats sont déployés là-bas, la situation s'est non seulement stabilisée, mais aussi visiblement améliorée, a déclaré la ministre centrafricaine. Des soldats centrafricains sont notamment formés par Moscou dans le palais de Berengo, à 60 km à l'ouest de la capitale Bangui. En quelques mois, la Russie a investi tous azimuts dans cette ancienne colonie française où elle a livré des armes et envoyé au moins 170 instructeurs civils. Il serait au nombre de 300 à 400 hommes, selon des sources occidentales. Face à l'influence croissante de Moscou, la France a livré mi-décembre 1400 fusils d'assaut aux forces centrafricaines après avoir obtenu une exemption à l'embargo de l'ONU sur les livraisons d'armes dans le pays. Afrique de l'Ouest maintenant, la Cour pénale internationale se prononcera mardi prochain sur la demande d'acquittement et de mise en liberté provisoire de l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Les précisions d'Irénée Herman Ungo.
C'est à travers un communiqué publié hier que la Cour a annoncé qu'elle rendra ses décisions sur les demandes de mise en liberté provisoire et les demandes d'acquittement le 15 janvier 2019. Après plus de 2 ans de procès, les avocats de Laurent Gbagbo et de Charles Blégoudé, ex-chef du mouvement des Jeunes Patriotes, ont demandé un non-lieu total en octobre dernier, estimant insuffisants les éléments de l'accusation pour prouver les charges au-delà du doute raisonnable. La défense a déposé une demande distincte réclamant la libération sous caution si le procès devait se poursuivre. Les juges de la CPI ont rejeté en avril une autre demande de mise en liberté sous caution de Laurent Gbagbo. M. Gbagbo, 73 ans, est en détention depuis 7 ans à La Haye. Premier ancien chef d'État à avoir été remis à la cour, il est jugé pour des crimes commis pendant la crise post-électorale de 2010 à 2011 qui avait fait plus de 3000 morts. Il est accusé ainsi que Charles Blé Goudé de 4 chefs de crimes contre l'humanité. Tous les deux ont plaidé non coupables.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Au Mali, suite aux violences perpétrées à Kologon, une équipe de la Division des droits de l'homme de la MINUSMA, la mission onusienne sur place, s'est rendue sur le terrain pour vérifier les violations commises dans ce village Peul. Les résultats de leur enquête seront remis à l'État malien et à la MINUSMA. Au micro de notre correspondant sur place, Momodou Bokoum, les explications de Guillaume Ngefa, directeur de la Division des droits de l'homme.
La MINUSMA a décidé le déploiement rapide d'une équipe spéciale d'établissement des faits à Kologon. D'abord pour voir ce qui s'est passé, voir l'étendue des allégations d'abus sérieux des droits de l'homme, aussi rencontrer les populations victimes de ces exactions, dans le but d'aider les autorités maliennes dans la recherche de la vérité. Nous sommes arrivés effectivement pour confronter ces allégations des personnes qui ont été tuées et aussi vérifier et confronter ces informations. Quant au reste de nos investigations, nous allons les partager avec la hiérarchie de la MINUSMA, avec les autorités maliennes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est l'état de désolation totale dans lequel nous avons trouvé ces populations. Ce qui s'est passé mérite une réponse judiciaire pour mettre un terme à cette série de crimes qui continuent à se commettre contre les populations locales.
Guillaume Ngefa, directeur de la division droits de l'homme de la MINUSMA, au micro de notre correspondant dans le centre du Mali, Momodou Bokoum. Au Nigeria, plus de 30 000 personnes se sont réfugiées à Maïdougouri, chef-lieu de la province de Borno, dans le nord-est du pays, depuis le 20 décembre. C'est à la suite de violents combats entre l'armée nigériane et le groupe djihadiste Boko Haram. Les détails avec Raïssa Girondin.
Plus de 30 000 déplacés sont arrivés à Maïdougouri, venus majoritairement de la ville de Baga, a révélé l'ONU, parlant d'une tragédie humanitaire. Le 27 décembre, Baga a été temporairement prise par les insurgés qui avaient mis en déroute les 500 à 600 soldats de la force multinationale mixte. Les Nations Unies sont extrêmement inquiètes des conséquences des violences sur les populations civiles, a dénoncé Edouard Calonne, coordinateur de l'ONU. Selon lui, quelques 260 agents humanitaires ont été obligés de quitter les districts de Munguno, Kala, Balj et Kukawa depuis novembre. Près de 1,8 million de personnes ne peuvent toujours pas regagner leur foyer dans la région du lac Tchad. Mardi, le gouverneur de l'État du Borno s'est rendu à Munguno, où il a imploré l'aide du gouvernement fédéral. La veille, le président Muhammadu Buhari a reconnu que l'armée essuyait des revers face à Boko Haram. À la mi-décembre, l'armée a suspendu les opérations de l'UNICEF, les accusant d'espionnage. Quelques jours plus tard, l'armée a demandé la fermeture des bureaux de l'ONG Amnesty International, qui dénonce les exactions des services de sécurité. Abuja a rejeté ces accusations, se disant très préoccupé du rôle que joue Amnesty dans la guerre contre la terreur.
Corne de l'Afrique, l'armée américaine a annoncé mercredi avoir mené une nouvelle frappe en Somalie, la quatrième depuis le début de l'année, bien que le président Donald Trump ait affirmé qu'il souhaitait suspendre les opérations militaires à l'étranger. Six combattants Shebab, le groupe djihadiste soutenu par Al-Qaïda, ont été tués lors de ces différentes frappes. Six combattants. Et il y a eu 4 autres djihadistes tués dans ces 2 frappes. Au Soudan, 3 personnes sont mortes et plusieurs ont été blessées suite à une intervention de la police pour disperser une manifestation antigouvernementale à Omdurman, ville jumelle de la capitale Khartoum. Les manifestants ont été dispersés par les policiers à l'aide de gaz lacrymogène. Et pour terminer, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a rencontré aujourd'hui le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi au Caire dans le cadre de sa tournée au Moyen-Orient et dans le Golfe. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de VOA Afrique.